Jacques Gamblin, bonjour. Donc vous êtes à l'affiche du dernier film de Nils Tavernier, donc l'incroyable histoire du facteur cheval. Nils m'avait dit que c'était finalement une évidence de vous choisir. Est-ce que c'était aussi une évidence pour vous d'accepter ce rôle?
En tout cas, j'ai pas mis longtemps à dire oui. Ça, donc, quand vous recevez un scénario pareil et puis un personnage pareil, non mais je pouvais pas m'attendre à ça. C'est un cadeau immense, ce personnage. C'est un mystère déjà. Je vais pas raconter tout le film, le personnage, mais c'est une masse d'inconnus. C'est pourquoi. C'est un instinct. Il y a quelque chose d'animal chez lui. Il y a de la retenue, de la réserve. Il y a du silence. Il y a le rapport à la nature. Il y a l'obsession, l'acharnement. Il y a l'énergie. De cet homme qui va mourir à 88 ans à cette époque-là, ce qui est quand même énorme, qui va enterrer toutes ses femmes, ses enfants, et qui continue, et contre vents et marées, contre le camp d'Iraton. C'est un personnage colossal. Donc, après, une fois qu'on a dit oui, il faut le faire. Et on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur du rôle, ça, sans aucun doute. Mais ça, je n'ai pas envie de laisser ma place, non, ben non.
Alors, en 2014, vous aviez déjà tourné avec Nils dans un film très fort, De toutes nos forces, où il était déjà question d'une leçon de bonheur et de courage, finalement, non?
Oui, c'est vrai. Il y a
une sorte de continuation?
C'est pas aussi parce que d'abord on a du plaisir à travailler ensemble, c'est clair, et puis aussi parce que Nils, à travers tout son parcours de réalisateur, il a fait je sais plus combien, 30 ou 40 documentaires, beaucoup sur la différence ou le soin, la maladie, etc. Et finalement, ces deux films, ils traitent aussi de la différence, bien sûr, de toutes nos forces avec cet enfant en situation de handicap, le rapport de ce père à cet enfant, ce challenge qui se donne à faire ensemble de cet Iron Man, ce projet pour retrouver de la relation. Et puis là, ce facteur cheval, parce qu'il traite là aussi d'un homme qui est différent, qui va au bout de son rêve, certes, qui utilise tous les moyens. Est-il dingue? Est-il juste fantaisiste? Est-il pathologiquement dérangé? Enfin bon, etc. Donc c'est lui aussi qui continue cette route. Alors il se trouve qu'il a envie, il a eu envie une deuxième fois de travailler avec moi, et tant mieux, mais c'est lui qui m'envoie des scénarios magnifiques.
Alors pour être crédible, comme aurait dit votre père, pour devenir ce facteur cheval, vous avez fait vos 32 km au quotidien?
Alors non, j'ai pas eu besoin quand même, parce que je
j'ai une bonne santé quand même. Iron Man à 56.
J'ai une bonne santé, et je suis assez physique et voilà. Mais en revanche, il fallait travailler. Je parle pas anecdotiquement du travail manuel qu'il y a à préparer, bien sûr, avec ce rôle, de la truelle et la chaux et les pierres et le modelage, etc. La marche à pied, certes, le vieillissement, c'est quand même un personnage qu'on vieillit sur 50 années de vie, mais plus sur le travail intérieur, j'ai envie de dire,
le mental.
Oui, le mental, cette chose-là qu'il a au fond de lui et qu'il exprime que par son œuvre, jour et nuit, par ce palais idéal qu'il va construire, ce château-là de 12 mètres de haut, de 26 mètres de long, pendant 33 ans. Et comment il ne peut exprimer ses sentiments qu'avec ses mains. Et c'est plus ce travail-là qui s'est fait peu à peu avec le personnage. Et ça, c'est un mystère, comment les choses se fabriquent à l'intérieur de vous. Hein. Ça se fait, c'est un peu comme le bois, ça travaille tout seul.
Le fait d'avoir justement commencé par la menuiserie, ça vous a un peu aidé, justement, cette approche manuelle?
Oui, mais j'aime, moi, travailler avec mes mains. J'aime ça, j'ai besoin de ça. En fait, j'aime bien les deux. Quoi. J'aime bien que ça voyage en permanence entre la tête et les jambes. Et j'aime bien faire avant de réfléchir... à ce qu'on a fait, avant d'analyser ce qu'on a fait, j'aime bien d'abord avoir l'instinct de faire, même au théâtre, j'aime bien par exemple qu'on improvise une scène à l'instinct, et parfois, souvent même, Nils nous amenait sur le plateau et nous dit comment vous voyez la scène, et on jouait la scène telle qu'on la sentait, et après il voyait si ça correspondait à ce qu'il avait imaginé, et sinon il l'adaptait. Et j'aime bien, moi, ces premiers jets, parce que souvent, ces premiers jets à l'instinct, ils sont justes. C'est ce qui sort de vous dans l'immédiat, dans le présent. Et ça, c'est organique, c'est animal. Mmh. C'est pas... si on se met à réfléchir, voilà, je verrais bien faire ci, faire ça, on perd beaucoup de temps. Je pense que c'est... Bon, enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je préfère réfléchir après avoir tenté quelque chose et voir après ce que ça a donné, plutôt que d'expliquer tout à l'avance.
Ce besoin de se surpasser, ça vous vient d'où ?
Alors ça, je sais pas. Je crois que ça me vient de... cette besoin de liberté aussi, de tenter des choses. Je crois que ça me vient d'une immense énergie qui m'a été léguée par mes parents. C'est une énergie, ouais, gamin, j'avais de l'énergie, je suis toujours un vieux gamin qui a de l'énergie.
Pas un punching ball chez vous, là.
Non, non, mais c'est pas... j'avais pas besoin de ça, mais je suis physique, quoi. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai besoin d'être dehors, par exemple. J'ai beaucoup de mal à rester enfermé dans une maison d'appartement toute une journée. J'ai besoin d'être au contact des éléments, j'ai besoin... Et puis je trouve que ces gens, ils me font rêver. Les gens qui tentent des choses et qui tentent l'impossible me font rêver, parce que moins que ceux qui veulent réussir à tout prix et qui sont obsédés par la réussite. J'aime les gens qui tentent l'impossible. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ils se donnent le droit de ne pas réussir. Mmh. Ils sont aussi, il y a une indulgence. J'ai tenté. J'aime les gens qui tentent, en fait. J'aime pas les gens qui disent non avant de dire oui. J'aime pas. Non, les gens que j'admire, c'est les gens qui disent oui. On y va, on essaye. Et on verra bien si on se plante, mais on aura essayé. On ne vivra pas avec cette frustration d'être resté sur la touche. On aura essayé.
C'est ce qui vous rapproche un petit peu de votre ami navigateur Thomas Coyle ?
Absolument, et c'est des discussions qu'on a eues souvent ensemble sur cette notion-là d'être obsédé par la réussite ou simplement de dire je vais essayer, je vais tenter l'impossible. On peut se dire ça tous les matins en se levant, je vais tenter l'impossible de vivre, je vais tenter l'impossible d'aller au boulot alors que je n'ai pas envie. Et du coup, on est gentil avec soi-même. Du coup, je pense que de cette façon, on intègre en soi la flemme, s'il y en a, la tristesse, s'il y en a, la mauvaise humeur, s'il y en a. On se dit, je fais avec ce que je suis aujourd'hui. Bon. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions souvent avec Thomas là-dessus, qui est alors vraiment, pour le coup, vraiment un athlète de l'extrême. Et,
bon, vous êtes pas mal non plus, hein, vous. Quand même, vous.
Oui,
vous
mais
y donnez,
enfin, bon, lui, il risque sa peau quand même à chaque fois qu'il part en mer dans les épreuves qui se donnent. Là, le nouveau bateau a été mis à l'eau. Je suis allé le voir là, il y a quelques jours. Un bateau qui va. Des bateaux qui volent de plus en plus. Et il va se réattaquer à ce record qu'il a perdu. Il y a un programme avec ses grands
marins
bateaux.
Marin de l'année qu'il était quand même.
Marin de l'année 2017. Bon, et oui, bien sûr qu'il y a de l'admiration pour
ces gens-là.
Au point
d'en faire un seul en scène.
Oui, parce que après avoir lu toutes ces correspondances... qui sont donc en 2014, lors de sa quatrième tentative, c'est voir quand même l'acharnement du mec, pour battre ce record du tour du monde à la voile en solitaire sur un grand trimaran de 31 mètres. Il a échoué donc trois fois, il tente la quatrième, ça échoue encore parce qu'il abandonne en Atlantique Sud, parce qu'il est en retard sur le record de Francis Joyon. Et donc là, c'est une aventure humaine, c'est-à-dire qu'il me donne l'adresse mail du bord. Ça veut dire qu'il a une immense... On se connaît depuis seulement un an et demi, hein. C'est une amitié récente. Il me fait une confiance incroyable. On n'est que cinq à avoir cette adresse mail du bord, donc il ne sait pas du tout de quelle façon je vais m'en servir, si je vais m'en servir, moi non plus. Et puis je lui écris un jour, le jour du départ, puis un deuxième jour, un troisième, et puis je me dis, tiens, moi je suis en tournée en solo avec un spectacle, et je lui écris tous les jours, ça dure 30 jours. Et puis lui, il me répond, mais je ne sais pas s'il me reçoit. Enfin, tout ça. En fait, c'est une aventure humaine très forte à distance avec le paravent de la mer, la distance, etc., de la géographie. Et quand je relis ça un an et demi après, je me dis, mais quelle belle histoire. Je me dis, en relisant tout ça, je me dis, mais quelle belle histoire de ces deux hommes qui se disent la vérité à distance, qui s'écrivent de la vérité et qui sont devant un abîme de risque de casser la relation fragile parce que je ne dis pas les bonnes choses qu'il voudrait entendre à ce moment-là, parce qu'il a échoué encore, qu'il a envie de se mettre dans un trou de souris, qu'il n'a peut-être certainement pas envie qu'on lui parle, qu'on lui... etc. Et moi, je ne sais pas, voilà, je dis ça dans le spectacle, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on dit à un homme, à un ami qui abandonne ? Et ça, c'est universel, on est tous confrontés à ça. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est dans la peine, qui est proche de vous, qui attend peut-être quelque chose de vous, mais on n'en sait rien, et toutes les maladresses sont possibles, comme l'inverse, enfin, c'est fragile. Et là, il y a cette histoire-là, elle témoigne de la fragilité, du risque de la relation, et en même temps de sa beauté et d'une amitié qui sera à tout jamais, dont cette écriture sera à tout jamais le témoin d'une amitié forte entre ces deux hommes à un moment de leur vie. Et que ce soit un public qui connaît la mère ou qui connaît pas la mère, c'est pas la question. Ça parle de l'échec et ça parle d'une main qu'on tend, etc. De ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit. C'est tout ça avec beaucoup de légèreté, d'humour, de danse, enfin de vidéo.
Quand vous retrouvez comme ça, après autant de temps, ça doit être énorme, non ? Je veux dire, le choc physique des retrouvailles.
Il a été fort. D'ailleurs, c'est comme ça que m'est venue l'écriture de la toute fin du livre. Du livre donc, qui a été édité aux éditions Équateur et puis du spectacle. Où j'ai écrit d'un seul jet ses retrouvailles quand il arrive, en effet, au bout de 30 jours, qu'il est triste, qu'il a envie de voir personne, qu'il y a 80 ou 100 personnes sur le ponton à la Trinité-sur-Mer, qui viennent là par sympathie pour lui, pour le soutenir, mais même ça, je pense qu'il n'a pas envie de le voir. Et puis, peu à peu, au fil de ses pas, les uns après les autres, sur ce ponton où il salue les gens, où il dit bonjour à ses amis, etc. Et puis moi, je suis là... au fond, comme ça, de la queue, je ne sais pas si je dois être là, si je ne dois pas être là, est-ce qu'il va me voir, je ne veux pas me mettre en avant. C'est un moment très, très, très fort. Puis à un moment donné, oui, il me voit, il m'étreint. Et tout ce qui s'est passé dans le silence de l'écriture se retrouve là, entre nos deux corps, comme pour étouffer, comme étouffer les mots. Et juste raconter des bras, quoi. Des bras et des corps qui disent merci.
Autre déclaration d'amour, quand même, pour revenir au facteur cheval. Ce film, c'est une belle déclaration. Et votre prestation est tellement émouvante que, finalement, quand on la transpose, on peut dire que c'est une belle déclaration d'amour à votre fille d'11 ans, non ?
Ah oui, ça, on peut dire que oui, c'est... C'est une très belle idée scénaristique, je trouve, de raconter que cet homme ne peut déclarer son amour ou à sa femme ou au monde ou à sa fille qu'avec une sculpture, on va dire qu'avec ses mains et des pierres, parce qu'il n'est pas capable, parce qu'on ne lui a pas appris à dire « je t'aime » ou on ne lui a pas appris à servir de ses deux bras pour étreindre un autre corps. Et ça me parle beaucoup, cette pudeur-là, cette retenue-là que j'ai pu connaître chez des gens, notamment aussi chez mon père. Ça m'a beaucoup touché que ce type, il transforme tout ce qu'il ne peut pas dire ou pas faire par une œuvre d'art, quoi, en fait. Enfin, qu'est-ce qui est devenu une œuvre d'art aujourd'hui ?
Alors, on parlait nature, c'est vrai que vous êtes fort écologique et écologiste, comme finalement Laetitia. Alors, sur un plateau de cinéma, on parle, vous, de votre discours, elle, de sa signature de lettre ouverte, ou comment ça se passe ? Vous avez échangé aussi vos points de vue, et vous vous rendez compte que finalement, vous avez pas mal de points communs ?
Oui. On n'a pas beaucoup parlé ensemble de tout ça. Mais oui, je me sens depuis très longtemps en affinité avec cette planète et la nature. Est-ce qu'elle m'a offert finalement la ville, la consommation, enfin, m'a moins donné que les êtres humains, que la relation humaine et que la nature, la mer, enfin, près de laquelle je suis né. Et donc, très vite, je suis fils de quincaillier. C'est ces boutiques où, dans les années 70, étaient pleines d'objets, qu'on trouvait de tout. Les quatre étages de réserve étaient bourrés à craquer de tout. Puis après, ce stock, on ne savait plus quoi en faire. Les grandes surfaces sont arrivées, il y avait trop de stock, ça coûtait trop cher. Il y avait trop de pertes, enfin, etc., etc. Et j'ai vu les gens, des fois, acheter n'importe quoi parce que c'était à la mode. J'ai vu toutes ces influences, bon, gamin, et je pense que ça m'a saoulé, ça m'a traumatisé à tout jamais que tous ces choix, toutes ces choses qui sont parfois utiles et parfois complètement inutiles et qu'on achète, puis on se rend compte au bout de 2 mois qu'on a fait une connerie, qu'on n'a pas assez de recul, de réflexion, des fois. Bon, et tout ça m'a, ouais, sans doute. Et donc, assez vite, je me suis senti très concerné par... C'est une écologie globale, quoi. C'est réfléchir un peu plus que d'être, de subir sans cesse des influences, de la publicité, des effets d'annonce pour tout et pour rien, parce qu'il faut vendre, parce que la croissance, parce que tout ça. Et si on prend juste un petit pas en arrière, on se rend compte que d'abord ça gâche beaucoup de choses. On va pas en faire la liste. Et puis ça gâche aussi le rapport humain, parce que moi, quand je parle d'écologie, je parle aussi de rapport humain. Dans ce texte dont on parlait tout à l'heure, je parle à un homme qui ne tient pas en place. Moi, ce qui me rend joyeux, c'est aussi la vérité avec laquelle on se parle avec Thomas Coville dans cette histoire. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller au plus près de quelque chose qui s'appellerait la vérité. Alors, elle est différente pour chacun, mais de ne pas se camoufler. En fait, ça m'ennuie. Je m'ennuie quand je ne sens pas qu'en face de moi, je peux parler vrai. On ne peut pas toujours parler vrai, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Je ne suis pas idiot. Mais de s'en approcher, c'est bien, ça me réjouit, enfin, ça me donne de l'espoir, en tout cas, voilà.
Jacques Gamblin, un grand merci. On rappelle donc l'incroyable histoire du facteur cheval sort le 1er mai. Merci.
Merci à vous.